Donc bonjour, nous allons commencer maintenant. Je suis Olivier Bouin, le directeur du Collège d'études mondiales.
It's working.
Is it working?
Translation, it's working.
Okay, okay. Donc, même si tu essayes de faire de l'obstruction au début de ma présentation. Donc bonjour, je suis Olivier Bouin, le directeur du Collège d'études mondiales de la Fondation Maison et Sciences de l'Homme, que j'ai le plaisir de diriger depuis 4 années maintenant. Je suis également directeur du Réseau français des instituts d'études avancées. Il y a une petite erreur dans le programme, ce n'est pas le réseau des études avancées, mais c'est des instituts d'études avancées. Je suis également le directeur d'un consortium européen de 23 instituts d'études avancées en Europe. Et les questions qui vont être abordées aujourd'hui sur un ordre international durable et des ordres régionaux seraient particulièrement bienvenues. Donc on pourra éventuellement réfléchir, cher Michel, à des possibilités d'invitation de chercheurs étrangers pour un dialogue à la fois pluridisciplinaire et international sur ces questions. Mais aujourd'hui, je vous dirai quelques mots de bienvenue parce que Michel et moi-même n'aimons pas prendre du retard dès le début de la journée. Donc je dirai simplement quelques mots et on aura l'occasion, lors des pauses, de manière plus informelle, de discuter peut-être du Collège d'études mondiales. Mais juste quelques mots sur ce collège. C'est une jeune institution. Elle a été lancée il y a 5 ans par Michel Dievorka, qui vous rejoindra, qui est encore dans l'avion qui le ramène de Colombie. Donc il viendra dans l'après-midi ou en fin d'après-midi, je crois, pour les conclusions. Avec pour objectif, au sein de la Fondation Maison et Sciences de l'Homme, qui est une fondation qui a été fondée par l'historien pluridisciplinaire Fernand Braudel, le Collège d'études mondiales a pour mission de réactiver un dialogue à la fois pluridisciplinaire, international, et je dirais entre les traditions intellectuelles que l'on trouve en différents endroits du monde, l'Europe, l'Amérique du Nord, mais sortir justement de ce tropisme à la fois européocentré où, lorsqu'on parle très souvent et trop souvent de monde global, on a surtout les perspectives ouest européennes et nord-américaines et finalement assez peu les perspectives global. C'est pour ça que nous sommes particulièrement, nous, intéressés au Collège d'études mondiales à accueillir les réflexions, alors non pas du tout en tant qu'objet d'étude, mais en tant que partenaire de la réflexion de collègues qui viennent des Caraïbes, de l'Amérique centrale et latine, du Maghreb, du Mashrek, de l'Afrique, de l'Asie du Sud et de l'Asie de l'Est. Ce sont des partenaires de réflexion. Aujourd'hui, le monde, comme vous le savez, est particulièrement interconnecté, globalisé. Les flux de personnes, les flux de marchandises, les relations à la fois commerciales, culturelles, diplomatiques sont très importantes, peut-être plus qu'elles ne l'ont jamais été. Et donc, il y a un véritable besoin de se saisir de manière globale, c'est-à-dire à la fois de manière pluridisciplinaire, de manière internationale, à la fois dans l'espace et dans le temps, pour bien comprendre aujourd'hui quels sont ou quelle est l'ampleur de ces grands phénomènes contemporains globaux. Au Collège d'études mondiales, on fonctionne autour d'une quinzaine de chaires et Michel Fouché est titulaire de la chaire de géopolitique appliquée. Donc on fonctionne autour d'une quinzaine de chaires qui permettent un dialogue au sein de chacune des chaires et entre les chaires. Je suis ravi aujourd'hui qu'il y ait un autre titulaire de chaire dans cette salle, Ernesto Otone, qui est un chercheur chilien qui travaille en Amérique latine, centrale et un peu partout dans le monde, et qui apporte au Collège d'études mondiales la perspective latino-américaine sur la mondialisation et la globalisation. Et on a appelé ça collège et pas institut parce qu'on souhaite évidemment qu'il y ait un dialogue entre les épistémologies, entre les méthodologies, entre les objets d'études, pour que nous ayons une meilleure compréhension grâce à une rénovation des cadres d'analyse et des cadres de pensée, avec une véritable ouverture à la fois pluridisciplinaire et intellectuelle, qu'on ait des outils plus performants pour mieux comprendre les phénomènes globaux. Et au Collège d'études mondiales, on essaye de les étudier dans, je dirais, sur l'ensemble de l'échelle des phénomènes globaux, c'est-à-dire des individus. On s'intéresse à la question des subjectivités, au rôle des acteurs, et notamment à une certaine période de la carrière particulièrement riche de Michel Fouché, il y a eu cette question des représentations mentales individuelles ou collectives, et ça c'est un élément important. Donc on s'intéresse à l'échelle 1, je dirais, aux hommes, aux femmes et aux perceptions qu'ils peuvent avoir de ces phénomènes, et on va comment dire en anglais, all the way up, où on bouge le curseur jusqu'au l'analyse des grands phénomènes contemporains du capitalisme financiarisé, des migrations, des guerres, des villes globales. Et donc on est à la fois sur sur une approche qui s'intéresse à l'individu, à sa perception, à sa subjectivité, et en même temps on s'intéresse aux grands phénomènes globaux, récurrents, sociétaux. Donc on a donc une quinzaine de chaires. Je ne vais pas vous avez ici, vous trouverez la présentation trimestrielle de nos activités, mais juste pour vous citer quelques-uns des thèmes que l'on essaye de faire interagir, nous avons une chaire autour des questions de santé globale, nous avons une chaire autour des questions d'économie du bien-être, Economics of Wellbeing, nous avons une chaire autour des villes globales avec Saskia Sassen et Richard Sennett, nous avons une chaire qui s'intéresse à la justice sociale dans des nouveaux cadres post-nationaux, Rethinking Social Justice. Nous avons une chaire sur l'altérité. Nous avons une chaire sur les questions d'éthique et de finance. Donc on essaye d'aborder les grands phénomènes ou les grandes questions contemporaines du monde globalisé, et on essaye de faire dialoguer les titulaires de chaires. La manière dont fonctionne une chaire, il n'y a pas un modèle unique, c'est pas un lit de Procuste, il n'y a pas une seule taille qui conviendrait à tous. En fonction des titulaires de chaires, qui sont français ou étrangers, ce que l'on peut faire, c'est inviter des postdoctorants pour mener une recherche, inviter des chercheurs reconnus pour faciliter ce dialogue pour des périodes plus courtes, des périodes d'un mois ou de deux mois, pour qu'on puisse créer et co-réfléchir à la construction d'un certain nombre d'objets. On organise des séminaires, des conférences, on engage des publications, on peut traduire en français ou en anglais, ou on peut faire traduire dans d'autres langues des travaux qui nous paraissent particulièrement importants. Voilà. Donc le collège est particulièrement ravi d'accueillir depuis le début Michel Fouché. La chaire, du fait des lourdes responsabilités que Michel a eues et continue à avoir, mais aujourd'hui il parvient à dégager un petit peu plus de temps pour nous, et on en est ravi. Donc c'est le deuxième grand épisode des activités de la chaire. J'ai pas le temps aujourd'hui de préciser tout cela. Il y avait eu une conférence internationale très intéressante, relayée à l'époque par France Culture, et aujourd'hui nous sommes ravis du partenariat avec Radio France Internationale, partenariat qui se matérialise derrière moi. Et il y avait eu un premier épisode autour de la question de l'influence. Aujourd'hui, nous avons une question particulièrement importante, celle de l'ordre et du désordre. Et donc, Michel, je vais te laisser introduire rapidement, si tu le veux bien, la journée de réflexion. Et je vous engage en tout cas vraiment à revenir vers nous. Je voudrais remercier quelques-unes de mes collègues qui sont ici, Gwenaëlle Liep, Annick Sardin, Marie Guérin. Et n'hésitez pas à revenir vers elles si vous souhaitez à la fois non seulement de plus amples informations sur nos activités, mais si vous avez des projets ou des idées que vous souhaiteriez voir développer avec nous, avec la chaire de Michel, ou de manière plus large avec le Collège d'études mondiales. Je vous remercie.
Merci Olivier. L'intention de ce séminaire international, qui aurait dû avoir lieu en fait plus tôt, j'avais pensé au 200e anniversaire du congrès de Vienne, mais France Culture était en grève, et puis ensuite le directeur a changé. Après, il y a eu Saïs Picot, et en fait, j'ai fait la synthèse des deux, parce que nous sommes dans une situation, dans le système international, qui devient de plus en plus difficile de qualifier. Il n'y a pas d'accord sur la qualification de la situation présente. Donc, c'est important d'expliquer tout ça. Et donc, le premier élément, c'est bien sûr, pas la fin, mais une remise en cause de l'ordre international tel qu'il a été créé par les États-Unis en 1945. Et ça ne date pas de l'actuel président. Le shérif a rendu son étoile. Sauf qu'il y a quand même encore de la bagarre dans les saloons et en dehors. Donc il ne peut pas vraiment rendre son étoile. Mais c'est la tentation. Parce que le coût du maintien de l'ordre international libéral est trop coûteux pour la population américaine. On a un schéma qui ressemble à ce qu'on a connu avant 1914. Mais il y a beaucoup de différences. Avant 1914, il y avait des puissances établies, le Royaume-Uni, la France, et une puissance ascendante, l'Allemagne, qui voulait, je cite von Bülow, 1898, sa place au soleil. La Kriegsmarine. Et il y a eu un choc. Aujourd'hui, il y a des puissances établies, États-Unis, Europe, Japon, il y a des puissances ascendantes qui veulent toute leur place, mais qui ont besoin des puissances établies pour se développer. C'est la grande différence. La Chine a besoin des États-Unis. Marché, placement des capitaux, en bons du trésor, accès aux technologies. La Chine est la grande bénéficiaire de la mondialisation économique. Le président Xi l'a dit à Davos. À Davos, le président chinois nous a fait un cours d'économie libérale. C'est quand même extraordinaire. Hein ? Donc ça, c'est le premier niveau. Donc on n'est plus en 1914. On est dans une situation extrêmement contradictoire où ce jeu puissance ascendante, puissance établie, en même temps, s'inscrit dans une interdépendance technologique, économique, qui, d'une certaine façon, réduit un peu les tensions. Le deuxième élément qui m'a frappé, après avoir beaucoup travaillé sur les accords Saïs-Picot, qui ne sont pas des accords de frontières, contrairement à ce qu'on a écrit, mais qui sont des accords de zone d'influence, c'est qu'on est de nouveau dans une logique de zone d'influence, notamment au Moyen-Orient. Hein, vous avez, en gros, la Turquie, qui est isolée. Vous avez un axe Téhéran-Bagdad, Damas-Beyrouth. En dessous, vous avez un axe Jérusalem-Tel Aviv-Ramallah-Amman. Et puis, vous avez une réorganisation en cours dans la péninsule arabique jusqu'à l'Égypte et la moitié est de la Libye. Donc, on a, au fond, un nouveau système de facto de zone d'influence. Et la conclusion que je voudrais interroger, c'est qu'aujourd'hui, à la différence de 1916, dans le cas du Moyen-Orient, qui est pour nous, en Europe, évidemment le plus tragique et le plus préoccupant, nous sommes loin du Mexique ou de l'Asie du Sud-Est. Là, il y a une proximité. Ce que je voudrais interroger, c'est la possibilité d'un ordre régional. Donc ma démarche est anti-Kissingerienne. Kissinger, c'est l'ordre mondial. Mais ce n'est pas ça la question. L'ordre mondial ne sert pas à régler les questions régionales. Dans le cas du Moyen-Orient, ma conviction depuis longtemps, et je l'ai dit à plusieurs reprises, publiquement, c'est que s'il n'y a pas un jour un accord entre Riyad et Téhéran, avec derrière Jérusalem et Ankara, et une garantie du Conseil de sécurité, les membres permanents, on aura du désordre. Il ne faut pas attendre de Moscou, de Paris, de Washington la solution des problèmes du Proche et du Moyen-Orient. On peut garantir une solution qui viendrait de l'intérieur. Donc là, on est dans la géopolitique appliquée. Question en Asie orientale, est-ce qu'on est dans un système d'égalité des États ou dans un système où il y a une Asie orientale centrée sur la Chine ? Quid de l'Inde là-dedans ? En Amérique latine et en Afrique, vous avez des problématiques qui sont celles de l'intégration régionale et nos deux participants sont vraiment des gens qui pensent les questions d'intégration régionale, mais de manière réaliste. L'Union bolivarienne est morte. Et son candidat en France est toujours vivant, mais ça ne marche pas, le Venezuela. Donc voilà, je résume. Je remercie tous ceux qui ont accepté de venir. Je regrette profondément, mais c'était sans doute prématuré, que les deux experts du monde arabe que j'avais invités, évidemment, je rêvais d'une table ronde où il y avait un Français d'origine turque, Ali Kassandjigil, où il y avait Hamzé Safavi, et puis un grand expert égyptien de l'appareil militaire égyptien et un ancien ministre libanais des Affaires étrangères, qui est en plus un grec orthodoxe. Je rêvais de cette table ronde. C'était trop tôt, on verra. L'un n'a pas eu le droit de sortir du territoire égyptien. Tiens, tiens, intéressant pour un intellectuel. Et puis l'autre a eu un problème que je ne m'explique pas. Peu importe. Donc voilà les thèmes, si vous voulez. Comment qualifier l'ordre international aujourd'hui, sa force et ses limites? Et puis qu'est-ce qu'on fait pour gérer les crises en prenant en compte les réalités? Et les réalités, c'est en fait des zones d'influence. Pourquoi pas un accord un jour Al-Jaber-Zarif? Ça serait mieux que Sykes-Picot. Mais c'est vers ça qu'il faut aller. En tout cas, c'est la question un peu provocante que je pose. En remerciant encore une fois tous les participants, il y a un tout petit changement dans le programme, mais c'est juste un déplacement. Notre ami Justin Weiss, directeur du Centre d'analyse et de prévision, a une obligation ce matin qui ne pouvait pas être modifiée. Je l'avais invité d'abord parce qu'il dirige le Centre d'analyse et de prévision et de stratégie, que j'ai dirigé dans le passé, mais surtout parce qu'il a écrit une œuvre majeure sur Brzezinski. Et donc, il viendra cet après-midi, il viendra en quelque sorte donner un point de vue français, il va changer un peu son sujet, un point de vue français sur toutes ces affaires. Et ensuite, nous aurons un débat avec une synthèse organisé par notre ami du journal Le Monde et qui s'occupe de la page des débats, Gaïd Sminassian. Et auparavant, originalité de ce séminaire, nous aurons deux tables rondes à 14h et à 15h qui seront organisées en fait comme deux émissions de radio animées par Marie-France Chatin, 40 minutes plus 20 minutes de débat. Ça sera diffusé dans le monde entier samedi prochain. Et puis le dimanche d'après, s'il n'y a pas de match de football, mais ça sera un samedi, peu importe. Donc, Radio France Internationale est une chaîne française de radio qui a une audience internationale extraordinaire. Et donc, je suis heureux que de cette coopération. Donc, voilà, il y aura un format un peu différent, mais la radio, c'est bien, c'est dynamique, il y a de la rigueur, on ne bavarde pas, on n'est pas dans l'académie, hein. La chaire géopolitique appliquée n'est pas une chaire académique, elle est pratique. Et la plupart de ceux qui sont dans la salle ont eu à un moment ou à un autre des responsabilités de recherche, mais de recherche appliquée en liaison avec les autorités de leur gouvernement. Ian Bond était ambassadeur dans les Pays-Baltes, on a travaillé ensemble. Enfin, écoutez, je ne vais pas raconter tout ça. Vous avez un très beau livret, très précis, où vous allez retrouver tous ces éléments. Nous allons donc immédiatement commencer.